Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de débuter la semaine avec vous et avec Culture Média numéro 401. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment nos quatre mousquetaires qui sont en fait 5. Hélène Manarino aux alentours de 10h20, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain, le journal des médias d'Antoine Janton et les audiences du week-end avec Louise Bernard. Notre infomédia, à 2 semaines de la réouverture des terrasses, la chaîne Ciné Plus lance la programmation À Table, une trentaine de films autour de la cuisine et de la gastronomie dans tous les styles. Drame avec Le Festin de Babette, film oscarisé, policier avec Une affaire de goût, encore des comédies avec La Bûche ou Barbecue. Anne Martinetti et Jean-Marc Jurami nous expliqueront pourquoi, non, ils ne sont pas sadiques. Puis nos invités, le président de l'AFP, Fabrice Friese, qui publie un essai revigorant, L'emprise du faux, c'est sous-titré Désinformation, le temps du combat. Vous allez dire, encore un livre sur les fake news? Oui, mais non, car il propose des solutions comme appliquer à l'information le principe du pollueur-payeur. Enfin, la chanteuse, autrice, compositrice Barbara Pravi, une écorchée vive, qui va représenter la France à l'Eurovision le 22 mai. Autre actualité pour elle, un mini-album de 6 titres, Prière, et son portrait inattendu par Hélène Manarino. Ça, c'est son actualité immédiate. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour à tous et à tous.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Le témoignage fort d'une journaliste menacée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, de nouveaux licenciements au service des sports de Canal+, et puis de nouveaux visages pour Télématin sur France 2.
Mais d'abord les audiences avec Médiamétrie. Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Alors c'était le cinéma le dimanche soir, vous le savez, il y avait 2 films en rediffusion. C'est TF1 qui l'emporte avec le film Demain tout commence d'Hugo Gélin, avec Omar Sy notamment. 4 300 000 téléspectateurs, 18,9% de part d'audience. Pas mal pour un film en rediffusion qui avait cartonné à la première diffusion, hein, presque 6 millions en mai 2019. Ensuite, c'est France 2 avec son film aussi en rediffusion, American Sniper de Clint Eastwood avec Bradley Cooper et Sienna Miller. 3 410 000 téléspectateurs, 15,4% de part d'audience. Troisième, France 3 avec la suite de sa série allemande Meurtre en eau trouble. Un épisode inédit qui a attiré 3 200 000 téléspectateurs, 13,4% de part d'audience. À noter Arte au-dessus du million, 1 200 000 téléspectateurs pour le film Mort sur le Nil. Et puis sur Canal+, un record historique hier pour le Grand Prix MotoGP, 980 000 téléspectateurs avec un pic à plus d'un million, 1 100 000 téléspectateurs.
Et ce week-end?
Alors le week-end, ce sont les duels pour la place de leader. Si vous nous écoutez régulièrement le lundi matin, vous le savez maintenant. Ah oui. On commence par le duel du samedi soir, TF1 France 3. C'était le grand retour de Cassandre sur la 3, retour réussi, hein. La série policière a fait course en tête avec ses 5 200 000 téléspectateurs et un record sur la part d'audience, 20,8%. Philippe, je sais ce que vous allez me dire.
Oui, je vois qu'il y en a qui veut parler là.
On a porté chance à Gwendoline Amand,
voilà,
qui était notre invitée vendredi.
Il va falloir qu'on arrête un moment parce que
ou alors faire un jingle. On va faire un jingle. On leur a porté chance, on va faire un jingle.
En face sur TF1, The Voice ne démérite pas du tout avec 4 900 000 fidèles en hausse par rapport à la semaine précédente et l'émission est leader en part d'audience, 22,2%. Peut-être grâce à une nouvelle épreuve inaugurée samedi soir, les Cross Battles.
Et puis vendredi soir?
Eh bien, plusieurs semaines qu'il y a ce duel Koh-Lanta-Capitaine Marlowe. Dernière semaine de face-à-face puisque la semaine prochaine, plus de Capitaine Marlowe sur France 2. Alors, qui a remporté le dernier match? Eh bien, égalité. 5 600 000 téléspectateurs chacun. Si on veut le détail, je sais que vous aimez les chiffres, ouais. Philippe. 5 678 pour Marlowe contre 5 633 pour Koh-Lanta. En part d'audience, en revanche, c'est TF1 qui l'emporte car l'émission dure plus longtemps.
Et Bertrand Chamerois va revenir sur Koh-Lanta dans quelques instants.
Culture Média.
On passe au journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une la journée mondiale de la liberté de la presse, liberté menacée encore et toujours partout dans le monde.
Oui, des centaines de journalistes sont menacés dans le monde. Morgane Large, récemment en France, on en a beaucoup parlé ici même. Autre exemple, plus dur encore aux Philippines, avec la journaliste d'investigation Maria Ressa, qui vient tout juste de recevoir le prix de la liberté de la presse de l'UNESCO. Prix remis pour récompenser son travail et celui du site d'information qu'elle a contribué à fonder, Rappleur. Travail qui lui vaut intimidation et acharnement judiciaire depuis l'arrivée au pouvoir du président Rodrigo Duterte, président autoritaire sur lequel elle a publié des enquêtes très critiques critiques, notamment sur les violations des droits de l'homme dans l'archipel. Nous avons contacté Maria Ressa et elle nous a donné un aperçu de ce qu'elle subit depuis maintenant plusieurs années.
En 2017, on a eu notre première assignation. En 2018, le gouvernement a monté 11 dossiers contre nous. En 2019, en février, j'ai été arrêtée deux fois en l'espace de 5 ou 6 semaines et emprisonnée. Fin 2019, j'ai dû payer 8 fois une caution pour rester libre et travailler. En 2020, avec une ancienne collègue, on a été condamné pour cyberdiffamation pour un article publié 8 ans plus tôt, un article que je n'avais ni écrit ni supervisé et publié à un moment où la loi qu'on a soi-disant violée n'existait même pas. C'est complètement fou, ça n'a jamais été aussi dur d'être journaliste.
La Maria Ressa a été condamnée à 6 ans de prison pour diffamation, mais elle est libre sous caution car les procédures continuent en appel. S'ajoutent à cela d'autres procédures pour diffamation encore ou pour fraude fiscale. Elle risque là la prison à vie. Impensable pour l'ONG Reporters sans frontières qui dénonce un harcèlement judiciaire. Alors à l'occasion de cette journée mondiale, RSF et la coalition Hold the Line lancent aujourd'hui une campagne de solidarité. Un site internet qui diffuse en boucle des vidéos jusqu'à l'abandon des charges contre Maria Ressa aux Philippines. Un soutien qui la ravit et qui l'encourage.
C'est incroyable.
Ça fait du bien après 5 années de combat où on se demande toujours c'est stupide ou ça vaut le coup? Alors de sentir un soutien extérieur, ça nous donne de l'énergie pour continuer à faire ce qu'on fait. Parce qu'au final, on est du bon côté de l'histoire. On doit continuer. C'est ce que tu fais quand tu es journaliste. Tu dois résister et tu dois avoir du courage parce que c'est toi qui détermine quel genre de futur on va avoir.
Maria Ressa, contactée par Culture Média, en l'occurrence par vous, Louise Bernard, pour accéder au site qui soutient cette journaliste. Rendez-vous sur holdthelineformariaressa.com. On s'est un peu long à épeler. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le site de Reporters sans frontières, rsf.org.
La purge continue au service des sports de Canal+.
La chaîne veut licencier 5 des journalistes de ce service. Information du média en ligne Les Jours. Parmi eux, Guillaume Prioux, le co-réalisateur du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Il est accusé d'avoir fait fuiter les séquences qui avaient été censuré dans le documentaire. Parmi eux, encore une élue du personnel, également membre de la Société des journalistes, Solange Tricot. La direction l'accuse d'avoir donné des informations au jour, des informations sur une réunion avec la direction à laquelle elle avait assisté avec d'autres membres de la SDJ. Ce licenciement, le comité social et économique de Canal+ s'est prononcé contre, un avis uniquement consultatif. In fine, c'est l'inspection du travail qui donnera ou non son accord.
Éric Zemmour accusé d'agression sexuelle.
Des accusations portées par plusieurs femmes contre le journaliste de CNews et du Figaro. Leurs témoignages ont été recueillis par Mediapart. Parmi eux, celui de Gaëlle L'Enfant, élue socialiste d'opposition à Aix-en-Provence. Des faits qui remonteraient à une quinzaine d'années. C'est elle qui, la première, a témoigné.
Télématin va changer de visage sur France 2.
Oui, ce sera la rentrée, changement de présentateur d'abord. Et première surprise, c'est un duo qui va prendre les commandes de la matinale la plus regardée de France. 800 000 téléspectateurs en moyenne, 25% de part d'audience. Ce duo, c'est Thomas Soto et Julia Vignali, qui sera l'invité d'ailleurs de Culture Média demain matin. Deuxième surprise, l'émission sera désormais diffusée 7 jours sur 7 avec un autre duo à la présentation du week-end, du vendredi au dimanche. Maya Loquet, co-animatrice de l'émission La Quotidienne sur France 5, et Damien Thévenot, joker officiel de Télématin. Et pour accueillir ces nouveaux visages, eh bien, il y aura un nouveau plateau, un décor plus chaleureux d'après nos confrères du Parisien. Quant à Laurent Bignolas, l'actuel présentateur, il va céder son siège. Il travaillerait sur un nouveau magazine d'actualité sur de bonnes actions, là encore pour France Télévisions.
France 3 a renoncé à la diffusion d'un programme sur les fêtes de Jeanne d'Arc pour des raisons qui font polémique.
Un magazine qui devait être diffusé samedi sur France 3 Centre-Val de Loire, mais la chaîne y a renoncé quelques jours avant. En cause, le temps d'antenne offert à Serge Grouard, maire Les Républicains d'Orléans, le canard enchaîné avait comparé le programme à un publi-reportage, et la présence de Charlotte Dornelas, journaliste de l'hebdomadaire très à droite, Valeurs Actuelles. Elle assure la voix off du programme, ce qui a fait dire au directeur régional de France 3 Centre-Val de Loire, pour une chaîne du service public, c'est très compliqué.
Grève suspendue à 20 minutes.
Décision prise vendredi dernier après 2 jours de mobilisation. Les grévistes ont obtenu le remplacement en CDI d'un poste à l'avenir incertain. Cela dit, ils restent inquiets et en colère sur d'autres sujets. Ils vont donc continuer à discuter avec la direction et les actionnaires du journal gratuit. Réunion prévue jeudi. Une nouvelle assemblée générale doit avoir lieu dans la foulée.
Merci beaucoup Antoine Janton. Merci Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à une opération spéciale gastronomie sur la chaîne Ciné+. Nous en parlons avec Anne Martinetti, auteure, réalisatrice documentaire Cinémiam, et Jean-Marc Jurami, c'est le directeur adjoint des antennes et des programmes de Canal+. À tout de suite.
9h. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
On ne sait pas si les chaînes Ciné Plus étaient dans la confidence, mais à 2 semaines de la réouverture des terrasses et des cinémas, leur nouvelle programmation arrive à point nommé « À table ». C'est le nom de cette opération, il y a un point d'exclamation prévu pour durer jusqu'à la fin du mois de juin. Une trentaine de films qui parlent de cuisine, de gastronomie, d'échange et de partage. Et ce, dans tous les genres. Drame avec Le Festin de Babette, Oscar du meilleur film étranger en 88, policier avec Une affaire de goût de Bernard Rapp, des comédies avec La bûche de Daniel Thompson ou Barbecue d'Éric Lavenne. Au programme également, un documentaire inédit sur les relations entre cinéma et gastronomie. Il s'appelle Cinémiam. Bonjour Anne Martinetti.
Bonjour.
C'est vous qui avez écrit et réalisé Cinémiam, vous allez nous en parler et nous allons en écouter quelques extraits d'avant-première. Bonjour Jean-Marc Jurami.
Bonjour Philippe Bandel.
Alors vous êtes le directeur général adjoint des antennes et des programmes de Canal+. C'était calculé de votre part, programmer cette opération spéciale cinéma-gastronomie à 2 jours du déconfinement.
Alors, non, même si je fais très attention à toutes les problématiques d'incidence, non, c'était pas totalement programmé, mais on s'était dit que ça serait sympathique de reparler de cinéma et de gastronomie, qui sont les deux choses qui peut-être nous manquent le plus dans cette pandémie, dans cette crise sanitaire. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit que proposer ça, même si les restaurants étaient encore fermés, donc là, on va tomber pile à l'ouverture, ouais. Donc c'est super, mais c'était quand même super pour nos abonnés de pouvoir retrouver l'ambiance d'un restaurant, retrouver l'ambiance d'un chef et de parler de gastronomie. Donc voilà, c'est ce qui nous a motivés.
Alors la programmation va durer près de 2 mois jusqu'au 27 juin. Quels sont les films que vous allez proposer à vos abonnés et aussi sur quelles antennes? Comment on va s'y retrouver? Alors qu'est-ce qu'on va voir d'abord?
Alors déjà, Ciné Plus à table, c'est une chaîne digitale principalement. Et donc ça va être disponible, tout sera disponible, l'intégralité des films sera disponible à la demande sur Canal+, sur les chaînes Ciné Plus. Cette chaîne, c'est une sorte de festin de films qu'on a voulu faire. Il y aura 40 films avec un menu concocté par les équipes de Ciné Plus, c'est Vincent Girard, le patron de Ciné Plus, je le salue là, qui a fait travailler son équipe. Donc on retrouvera des grands classiques, vous l'avez dit, Le Festin de Babette, La Grande Bouffe, mais on retrouvera aussi Les Saveurs du Palais avec Catherine Froh, À Vif avec Bradley Cooper, il y aura des films américains, il y a des films japonais comme la Saveur des Ramen, qui est une merveille, des films de festin. Des festins de potes, ouais. Comme Barbecue. Ouais. Et puis, pour ceux qui sont plus sucrés, il y aura Charlie et la chocolaterie. Voilà, on en aura pour tous les goûts. Et tout ça, et effectivement, cherry on the cake, comme je dis, il y aura un documentaire totalement inédit qu'on a produit pour l'occasion sur la relation entre le cinéma et les chefs.
On va parler du doc dans un petit moment. Sur quel canal? Alors, où est-ce qu'on va voir ça? Sur quelle chaîne?
Alors, ce sera sur toutes les chaînes Ciné Plus, un peu disséminé sur toutes les chaînes. Donc, Ciné Plus Émotion et surtout, vous le retrouvez. Et ça, c'est très important. Dans MyCanal, vous avez une chaîne digitale. Ouais. On éditorialise beaucoup MyCanal. Vous savez que MyCanal, c'est 50 000 contenus disponibles à l'instant T. Donc, pour nos abonnés, c'est à la fois une richesse incroyable, mais aussi c'est un océan de contenus. Et donc, on éditorialise comme ça, en mettant à disposition des chaînes repères avec des thématiques très, très clairement identifiées. Et nos abonnés se disent, tiens, il y a cette opération, je vais aller voir. Ils redécouvrent des films qui, des fois, certains étaient déjà disponibles, mais ils se repèrent comme ça et c'est extrêmement important. Vous le savez, sur les plateformes, je crois qu'il y a une étude qui a montré que les gens cherchent 30 minutes un film ou un contenu par jour, avant, ouais. Par jour, ouais. Avant de retrouver. Donc nous, notre but, on travaille beaucoup avec Gérald Brice-Viret, avec Vincent Navarro et Pierre-Emmanuel Ferrand. On travaille énormément. Toutes les semaines, on se réunit pour choisir ce qu'on va mettre en avant sur MyCanal, vignette par vignette, parce ouais. que c'est complètement clé pour nous que nos abonnés arrivent et soient en résonance avec ce qui se passe dans l'actualité. Là, vous voyez, c'est le cas. Mmh. La plateforme américaine ne va pas nous faire Ciné Plus à table, par définition, parce qu'elle ne sait même pas que nos restaurants y réouvrent. Hein. Donc c'est extrêmement important pour nous d'être ancrés dans l'actualité de notre pays, et c'est ce qu'on fait.
La plateforme américaine, je ne vois même pas à qui vous faites allusion.
Oui, il y en a plusieurs.
Alors, quand on pense au cinéma et à la cuisine, on pense naturellement à des grands classiques incontournables. Alors, La Grande Bouffe y sera, mais il n'y aura pas Le Grand Restaurant, il n'y aura pas Les Loups la Cuisse.
Ben non.
Pourquoi les avoir contournés
ces Non, on ne les a pas contournés, j'en rêvais, mais malheureusement, problème de droit, vous savez, quand on monte une OP comme ça, il y a des films qui sont réservés, entre guillemets, par d'autres chaînes ouais. Sur des années entières, et donc vous ne pouvez pas y avoir accès. C'est malheureux, mais il nous manquera effectivement ces deux-là, mais il y a quand même une très très belle programmation.
Les Tontons Flingueurs?
Il n'y a pas Les Tontons Flingueurs.
Ah mince alors. Anne Martinetti, la pomme. Anne Martinetti, dans la programmation également, il y a un documentaire inédit. Je vois que ça vous fait sourire, cette pomme des Tontons Flingueurs. Cinémiam, c'est quoi le propos de ce documentaire? Il faut mettre votre masque, s'il vous plaît. Un masque vraiment de circonstance avec des fruits,
bah oui.
Des fraises, des myrtilles et des mûres.
Tout à fait. Anne. Alors, le propos de ce documentaire, c'est de faire se réunir deux thèmes, deux arts qui sont des arts complets, la cuisine et le cinéma. Et l'idée, c'était vraiment d'inviter à s'exprimer à la fois des chefs, mais aussi des réalisateurs qui étaient donc intéressés, évidemment, par le sujet. Et ce qui nous a beaucoup réjouis lors du tournage, c'est de constater à quel point, effectivement, ces deux arts étaient complémentaires.
Ça allait être ma question. Ce n'est pas l'alliance de la carpe et du lapin. Ça avait un sens de mixer, si j'ose dire, le cinéma et la gastronomie.
Voilà, alors ça avait un sens. Moi, c'est un travail que je poursuis depuis que j'ai écrit le livre de cuisine d'Alfred Hitchcock. Et au-delà donc, d'étudier les différents réalisateurs du point de vue de la gastronomie et de constater à quel point ils mettent des scènes de table, des scènes de repas pour rythmer leur action et pour rythmer la structure de leur film. Et c'est effectivement ce que nous ont expliqué les réalisateurs à propos de leur film, tout autant que les chefs à propos de leur menu, puisqu'il est évidemment question de mise en scène, il est évidemment question de goût, il est évidemment question de saveur, de couleur, et tout ça, ce sont des thèmes communs au cinéma et à la gastronomie.
Et puis je l'ai découvert grâce à vous, il y a un mot en commun, c'est le mot plateau.
Exactement, voilà, on vous sert sur un plateau à la fois un film et un bon repas.
Alors, le cinéma permet de voir, de faire partager un repas, de faire partager une recette. Exemple, avec une scène culte du film Diva de Jean-Jacques Benex. On y voit, je dis ça pour les plus jeunes qui ne l'ont pas vu ou pas revu, on voit Richard Bohringer préparer une immense tartine, c'est le zen dans l'art de la tartine. Une scène qui a marqué, vous allez l'entendre juste après un extrait du film, une scène qui a marqué le chef étoilé Thierry Marx.
Il y en a qui se défoncent à la colle d'avion, à la lessive, enfin des trucs compliqués quoi. Moi, mon satori, c'est ça, le zen dans l'art de la tartine.
La texture de la mie, pas trop fraîche, un peu mais pas trop. Le beurre, dur mais pas trop. La lame, importante. La baguette, importante. Tout ça donne à l'image une olfaction, une texture. Et finalement, vous n'avez qu'une envie quand vous regardez cette scène, c'est de dire, je vais me choper une boîte de caviar, je vais me faire une énorme tartine pour revivre cette scène physiquement du zen dans l'art de la tartine.
J'adore l'expression, je vais me choper une boîte de caviar. Genre, on a tous
une boîte de caviar sous la main.
Chez soi, toujours. Blague à part, c'est une source d'inspiration pour les chefs, le cinéma, Anne Martinetti.
Oui, absolument. Alors, ils ont tous des souvenirs de cinéma, sans parler de ceux qui ont été consultés pour des films de cinéma. Guy Savoy a fait une voix et Hélène Darroze a servi de modèle à Colette dans Ratatouille. Ils ont à la fois des souvenirs d'enfance. Alors, Jean-François Piège a appelé son restaurant, le Grand Restaurant, en hommage au film, ou bien Pierre Gagnaire nous parle de son canard au chocolat comme d'une scène de film. Donc ils ont effectivement une grande culture cinématographique et puis cette scène d'anthologie que vous venez de diffuser, le zen dans l'art de la tartine, que Thierry Marx nous raconte et qui nous met l'eau à la bouche.
Et justement, d'autres chefs marqués par des films, pour Guy Savoy, c'était Le Festin de Babette, on l'écoute.
Pour moi, c'est le plus bel hommage à la gastronomie française, à travers les plats, bien sûr, mais à travers ce qu'elle transmet, c'est-à-dire de dire « voyez ce qui se passe autour d'une table chez nous ». Ce lien social, cette découverte pour tous ces habitants de ce petit village, et tout, pour moi, ça reste mon film culte, quoi. C'est la plus belle célébration de la gastronomie dans sa totalité, dans tout ce qu'elle représente.
Le Festin de Babette, donc film préféré de Guy Savoy, qui décrit pour lui le mieux les beautés, les plaisirs de la gastronomie. Pourtant, ce n'est pas un film français.
Non, absolument. C'est un film qui se passe au Danemark, qui n'était pas à l'époque du Festin de Babette un pays renommé pour sa gastronomie. Ça a changé depuis. Mais en tout cas, Babette va donc consacrer une somme astronomique, 10 000 francs, à préparer un festin, à faire goûter à la famille, au village qui l'accueille, toutes les spécialités finalement qui, elle, lui manquent quand elle est dans ce pays.
Voilà, Babette qui est française et puis on voit que c'est 87 puisqu'on est encore en franc. On est passé à l'euro, on est avec Anne Martinetti et Jean-Marc Jurami. On continue à parler de cette programmation autour de la gastronomie sur Ciné+, des chaînes spécifiques. A tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous parlons avec Jean-Marc Jurami, directeur général adjoint des antennes et des programmes de Canal+. Et avec Anne Martinetti, réalisatrice, nous parlons de cette programmation spéciale sur Ciné+, s'appelle Cinémiam et puis un documentaire. Ciné à table, pardon, le cinéma qui a ses limites également. Il permet pas de restituer toute l'expérience gustative et sensorielle d'un repas, mais il y a certains chefs qu'on sont persuadés, vous les avez interviewés, Anne Martinetti, notamment chef étoilé, 3 étoiles, Pierre Gagnaire. Comment suggérer ces sensations ?
Nous, on fait depuis quelques années un canard de chaland et il est macéré au cacao pendant 24 heures. Et ce canard, on le présente au client sous une cloche en chocolat amer. Et cette cloche, on met le feu, on l'emmène en salle, donc ça fumote, voilà. Puis on le laisse là pendant à peu près 3-4 minutes. Et donc le chocolat, il est légèrement fatigué. Et on arrive avec un maillet et on donne des grands coups de maillet. Le chocolat part dans tous les sens. Et là, il se libère des odeurs de chocolat. Si c'est vraiment bien filmé, on aperçoit l'odeur, voilà. Donc ça, c'est très cinématographique.
Ça vous fait sourire, Anne Martinetti, si c'est vraiment bien filmé, c'est possible.
On aperçoit l'odeur, je trouve cette expression géniale.
C'est vraiment bien, ouais. La cuisine au cinéma permet de dire beaucoup des personnages, leur généralité, leur pinguerie, plein de choses. Vos interviews ont été réalisées dans des cuisines, souvent spectaculaires. Au détour de certains entretiens, on aperçoit certains livres. Celui d'Hélène Darroze, que vous interrogez, celui de Pierre Gagnère, celui du chocolatier Jacques Genin. Ces déplacements de produits, vous ont fait le deal? Ils vous ont dit, je fais l'interview, mais je veux mon livre derrière?
Non, nous sommes des artistes. Donc nous sommes libres, bien sûr. Donc en fait, les entretiens ont été réalisés dans les locaux du CFA Médéric, que je remercie vraiment. Le CFA Médéric, il a une particularité, c'est un immeuble entièrement art déco. Ouais. Donc c'est pour ça que l'image déjà est particulière. Et ensuite, on a travaillé avec des caméras de qualité cinématographique, des FS6 pour ceux qui connaissent, et qui donc permettent que la caméra aussi se déplace. On a voulu du mouvement en permanence. On a voulu se placer aussi à la hauteur des brûleurs. Mmh. Donc on a une image qui filme les chefs.
Une FS6 en moins.
À la hauteur des brûleurs éteints. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a voulu harmoniser en fait le propos avec la manière de le filmer. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on entre dans l'image et puis on a projeté sur les grands réfrigérateurs des images de films. Ouais. Enfin, ça donne un aspect vraiment très cinématographique à une cuisine. Et lorsqu'on parle de plateau, on parle aussi de plateau. De la cuisine, de tous ces brûleurs, de très grands espaces. Donc l'image nous a vraiment demandé beaucoup de travail, mais on est vraiment très contents du résultat.
Oui. Je plus sois, c'est vraiment très très beau. Vous avez parlé de l'image en un mot du son. Aucun commentaire, que des témoignages, pour quelles raisons?
Parce qu'on a trouvé que les chefs étaient tellement éloquents en fait sur leur sujet. On a alterné avec des extraits de films dont ils nous parlent. Et donc ça permet d'avoir... il nous a semblé que le commentaire aurait... pas apporter énormément de choses. Moi, j'ai écrit une vingtaine de livres sur le sujet, donc on aurait pu. Mais là, en l'occurrence, les chefs et les réalisateurs se répondent, les journalistes leur font écho. Donc on a vraiment un propos qui est complet et qui nécessitait absolument pas un commentaire supplémentaire. Et
Jean-Marc Jeramy, c'est quoi l'objectif de cette programmation au-delà des fans de gastronomie?
Alors, c'était au départ quand même l'idée de rendre hommage effectivement à la gastronomie et au cinéma aussi, les deux nous manquant énormément. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour préparer l'ouverture des restaurants et surtout des salles. Donc c'était ça l'idée de départ. Et après, en fait, on a une politique de chaîne digitale comme ça, soit éphémère, soit pérenne, sur Ciné+. Ciné+, vous le savez, c'est la plus grande offre de chaînes de cinéma en France. C'est 6 chaînes, 4000 films par an diffusés. Et on a une vingtaine de chaînes comme ça que l'on fait naître à peu près tous les mois, soit de façon pérenne. Donc, par exemple, on a un Ciné+ Asie qui reprend tout notre catalogue de films asiatiques. On a un Ciné+ Italie. On a un Ciné+ années 80. Donc, ça peut être tranché aussi par année. Et puis, on décline comme ça.
Et vous pourriez relancer une chaîne cuisine ? Alors, il y avait Cuisine TV qui est devenue Cuisine Plus, qui avait été fermée en 2015. Elle pourrait renaître de ses cendres, de ses brûleurs.
Je ne suis pas sûr qu'une chaîne telle qu'elle ait existé à l'époque ait encore du sens aujourd'hui, à l'heure d'Internet ou les recettes. Je pense qu'on n'aurait pas exactement la même chose. Mais qu'on crée une chaîne, notamment digitale, sur ces contenus-là, oui, c'est possible. On y réfléchit parce que c'est quelque chose dont nos abonnés sont toujours fans. Et puis, c'est vrai qu'on est le pays de la gastronomie française, enfin, de la gastronomie en général et de la gastronomie française en particulier, et que nous n'avons pas il n'y a plus de chaînes à proprement parler. Alors quand on regarde le paysage effectivement mondial, il y a quasiment des chaînes dans tous les pays.
Tout à fait autre chose, la semaine dernière, les audiences de CNews sont sérieusement rapprochées de celles de BFM TV, seulement 0,1% d'écart lundi et mercredi. Pour dire les choses, quand est-ce que CNews va dépasser BFM? Quand est-ce que les courbes vont se croiser, tant est qu'elles se croisent un jour?
Alors, vous le savez, je ne suis pas en charge de CNews, mais puisque vous m'en donnez l'occasion, je vais en profiter pour saluer le travail exceptionnel des équipes de CNews, parce qu'effectivement, réussir l'exploit de faire une semaine record Parce qu'effectivement, ils commencent vraiment à titiller BFM hier. Effectivement, plusieurs jours de suite, ils étaient à 0,1 près. C'est assez exceptionnel, d'autant plus que, pour la petite histoire, ça correspond aussi aux dates de déménagement de CNews au sein des logos de Canal. Donc, on a réussi l'exploit de faire une semaine record d'audience dans un déménagement. Je ne sais pas si les gens imaginent ce que c'est que de déménager
juste
une chaîne d'info.
Vous avez les chiffres d'avril moyen, parce que nous, on ne les a pas encore. Vous les avez, vous, les chiffres d'avril?
Je les ai pas là, bon. Mais je crois que avril est un, et parce qu'il manquait effectivement les chiffres de dimanche, ils tombent à 11h. Mais je crois qu'on est sur un mois record, en tout cas par rapport à avril de l'année dernière.
Les bonnes audiences de CNews doivent beaucoup à celles des émissions de fin de journée, entre 17 et 22 heures. Laurence Ferrari, Pascal Pau, Éric Zemmour. Éric Zemmour qui est accusé d'agression sexuelle, on l'a dit dans le journal, par plusieurs femmes, des témoignages recueillis notamment par Mediapart. LCI avait été confrontée à la rentrée à une situation similaire avec des accusations portées contre son journaliste Darius Rochebain. LCI a retiré le présentateur de son antenne le temps d'une enquête. Que va faire CNews à ce sujet ?
Je ne suis pas du tout habilité, je vous le dis, de parler de CNews, surtout de commenter des articles. Je ne crois pas que ce soit exactement la comparaison n'est pas exactement... on n'est pas exactement dans la même situation. Donc je ne pourrais pas vous faire de commentaires.
Je peux poser la question différemment de ce que vous savez. Est-ce qu'Éric Zemmour sera à l'antenne ce soir ?
À ma connaissance, oui.
Et dans le groupe Canal+, encore, la purge continue au service des sports. La direction a engagé des procédures de licenciement contre plusieurs journalistes de ce service. Parmi eux, une déléguée syndicale, Solange Tricot, qui a été accusée d'avoir parlé à un média Les Jours, ce qu'elle dément fermement. Le secret des sources est protégé par la loi. Pourquoi Canal+ fait-il la chasse aux sources ?
Alors, vous ne voulez pas, Philippe Vandel, m'inviter pour me poser des questions sur des choses qui concernent mon périmètre, parce que je ne m'occupe pas ni de CNews, ni du sport.
Donc, je suis d'accord, mais vous êtes un des dirigeants de Canal+.
Oui, je suis un dirigeant.
Vous êtes
bon,
le directeur
cinéma,
général adjoint des antennes et des programmes. Quand on a quelqu'un de France 2 qui a une affaire qui concerne France 2, on lui pose la question, idem, quand c'est un autre média.
Si vous voulez, écoutez, sur des problèmes RH, on est en train de parler de problèmes RH internes au service des sports, ou d'ailleurs, quels que soient les sujets, ce sont des problèmes RH individuels qui concernent donc des individus, il est absolument impossible de commenter ça. Le principe, c'est que ça ne se traite pas, ces problèmes RH ne se traitent pas à la radio, et c'est bien le sujet d'ailleurs, ça ne se traite pas dans les médias en général, ça se traite entre l'entreprise et son salarié. Et donc, il faut que ça reste comme ça.
Merci beaucoup Jean-Marc Jurami, merci Anne Martinetti. Je le rappelle, Cinémiam, c'est à voir le 30 mai sur Ciné+. À table, le nom de cette programmation dure jusqu'au 27 juin. Au programme cette semaine, il y aura de Lunchbox et Soul Kitchen. Et puis, puisqu'on parle gastronomie, on va saluer l'ami Laurent Mariotte, la table des bons vivants sur Europe. C'est le samedi à 11h et c'est en podcast tout le temps. C'est pour ça que je le dis maintenant ici. Dans un instant, notre invité, c'est le président et directeur général de l'AFP, Fabrice Frise, pour L'emprise du faux, livre contre la désinformation, dans lequel, il apporte également des réponses. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Fabrice Frise.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes depuis 2018 le PDG de l'AFP, l'agence France Presse. Le groupe emploie 2500 personnes dans le monde, dont 1700 journalistes. Après 6 ans de déficit, non seulement vous avez rétabli les comptes, mais en 2020, vous affichez un bénéfice net historique de 5,3 millions d'euros. Ça fait toujours plaisir. Ce qui m'intéresse ici, c'est la chose suivante. Vous avez développé une entité d'investigation numérique avec pas moins de 100 fact-checkers, des gens qui vérifient l'info à temps plein. Dans 30 pays, j'ai lu dans le Figaro, qu'en termes de revenus générés, l'AFP est devenu le leader mondial du fact-checking, vous confirmez ?
Oui, et de loin. On a à peu près 3/4 du marché de ce qui est devenu un nouveau business pour les médias, une nouvelle ligne de développement de revenus, c'est le fact-checking.
Vérifier l'info, c'est le cœur de cet ouvrage que vous publiez, L'emprise du faux. C'est sous-titré « Désinformation, le temps du combat » aux éditions de l'Observatoire. Ça commence très très fort. « Je suis de la même promotion, écrivez-vous, de l'ENA qu'Emmanuel Macron, un vrai sésame. C'est grâce à cela que j'ai été nommé président de l'AFP en avril 2018. Ça vous étonne ? Pourtant, c'est comme ça que ça marche. C'est bien connu. Faut vraiment être naïf pour penser que ça puisse se passer autrement. » Un paragraphe plus bas, c'est pas moi qui le dis, mais un film dans lequel j'apparais, Hold Up. Dans les 15 jours suivant la sortie de ce film, en novembre 2020, il a été vu 2,5 millions de fois et il a suscité 400 000 tweets. Or, les trois premières infos que j'ai lues sont totalement fausse. Il y a trois choses fausses. D'abord, vous n'êtes pas de la même promo de l'ENA que Macron.
Exact.
Le président de l'AFP n'est pas nommé.
Il est élu.
Il est élu. Et vous connaissez à peine Emmanuel Macron.
Je l'ai rencontré 3 fois dans des événements publics.
Alors, ce livre part d'un constat qui fait froid dans le dos, mais également il est très intéressant parce qu'il propose des solutions. Il ne suffit pas de dire c'est horrible les fake news et il faut former les enfants plus jeunes. Là, il y a plein de solutions. Mais quand même d'abord, le constat, depuis le début de la pandémie de Covid, l'AFP a publié 2500 articles rectificatifs au sujet de la Covid, des fact-checks. YouTube a retiré plus de 200 000 vidéos jugées dangereuses ou trompeuses. Twitter a reconnu que 20% du contenu partagé sur sa plateforme était de nature toxique. Ce sont des chiffres énormes. Est-ce qu'ils ont changé les choses ou ce ne sont que des gouttes d'eau dans l'océan ?
Je pense que ça change les choses. J'entends beaucoup de sceptiques qui disent le fact-checking, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je défie quiconque de dire, d'évoquer une fake news qui soit passée au travers du crible de l'ensemble de l'activité des organisations de fact-checking dans le monde. Je parle d'une information très virale.
Moi, je peux vous en donner, il y en a plein.
On a atteint une masse critique maintenant qui fait que ce travail est efficace. Il n'est pas suffisant, mais il est efficace.
Alors, efficace, oui et non. Je vais donner un exemple. C'est le fameux bus des gens du Brexit. Il circulait en Angleterre, dans tout le pays, avec, il était écrit sur un bus que, à partir du moment où l'Angleterre, si jamais elle revenait, si elle quittait l'Europe, le système de santé britannique allait pouvoir toucher 350 millions de livres par semaine de contribution au budget européen. Tout le monde a dit que c'était faux, mais pourtant les gens ont quand même voté pour le Brexit.
Oui, alors d'abord c'est une opération de 2016 et nos activités sont lancées à compter de l'année suivante.
Je suis bien d'accord, mais c'était pour donner un exemple très frappant.
Mais vous avez raison.
Les gens savent que c'est faux, mais ça ne change rien.
Il y a une demande pour le faux qui est éternelle. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est que cette demande rencontre son offre aujourd'hui grâce aux plateformes. C'est ça le grand changement. Et cette demande pour le faux, on le voit à travers un film comme Hold Up. Il y a eu 2 500 000 vues. Comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas 2 500 000 imbéciles, c'est des gens qui sont attirés par cela. Ce que l'exemple que vous donnez a montré, qui est très grave, c'est que le mensonge en politique ne tue plus. Il ne sert plus la vérité ne sert plus de surmoi moral, comme elle l'a fait dans les années précédentes. On peut très bien aujourd'hui être un leader politique, aligner les mensonges et malgré tout être élu. Mmh. Ce qui était très frappant là, dans le cas de la démocratie britannique, qui nous donne souvent des leçons, c'est qu'au lendemain même seulement du Brexit, les équipes du Livre disaient non, tout ça n'est pas vrai, bien il n'y aura pas cette réaffectation. Ça, c'est très très inquiétant pour nos démocraties, bien entendu.
Et ça continue. On parlait de l'exemple des 350 millions de livres en Angleterre, mais là, il y a encore beaucoup beaucoup de gens qui font un lien entre la 5G et la Covid. Vous le racontez, parce que tout est parti de Wuhan. Donc, en trouvant des coïncidences là où elles n'existent pas ou là où elles sont totalement fortuites.
Avec l'idée qu'il y a toujours des explications simples à des phénomènes complexes. Ça explique qu'avec cette pandémie, ce qu'on a vu, c'est que la pandémie aurait dû nous réconcilier avec l'idée que les faits, c'est important, que la science, ça compte. On a vu qu'il n'en avait rien été. Et je pense que ça illustre le fléau de l'époque.
Pour vous, il y a un tournant qui se joue le 6 janvier avec l'assaut du Capitole par des partisans de Trump. Trump qui venait d'être battu à l'élection et qui répétait du matin au soir sur Twitter qu'on lui avait volé sa victoire. Pourquoi, selon vous, il y a un tournant ce jour-là ?
D'abord parce qu'on voit que la désinformation et au-delà la formation de théories complotistes ont des conséquences dans la vie réelle. En l'espèce, 5 morts, un événement majeur de l'actualité de l'année. J'espère que ce sera un moment fondateur. Je pense qu'on le voit aux États-Unis avec l'arrivée dans l'administration Biden de grands turiféraires des plateformes, des gens qui sont très connus pour leurs écrits théoriques souvent sur la désinformation. Et donc, il y a en ce moment aux États-Unis un débat pour dire que la présomption d'irresponsabilité des plateformes, c'est fini. Ouais. Il faut trouver un nouveau cadre, il faut resserrer le cadre. Et c'est en cela que je pense que c'est un événement fondateur. Parce qu'on voit que l'autorégulation des plateformes ne suffit plus.
Alors quand même, il y a eu un peu d'autorégulation, puisque le 9 janvier, je visitais le New York Times, que vous citez d'ailleurs, j'ai pris cette phrase dans votre livre. À la fin, écrit le New York Times, deux milliardaires californiens ont fait ce que des légions de politiciens, de procureurs et autres puissants avaient tenté pendant des années sans y parvenir, débrancher le président Trump, c'est-à-dire Twitter et Facebook qui lui coupent son compte. Décision ambivalente selon vous, et après on marquera une pause, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Vous dites
Je pense que c'est une bonne chose qu'il fallait le faire parce que les démocraties ont le droit de se défendre et que les plateformes étaient parfaitement autorisées à débrancher Trump. La loi les y autorise. En même temps, c'est une mauvaise chose parce qu'on en est arrivé à cette solution extrême tout de même. à une décision évidemment non démocratique au possible, puisque ce sont quelques milliardaires de la Silicon Valley qui prennent cette décision. Et ça montre qu'il n'y a pas eu les étapes qui précédaient, qui ont permis d'arriver à une solution plus nuancée, de contraindre Trump à la mesure. On en est arrivé au tout ou rien du bannissement ou de la libre expression totale. En cela, c'est un échec.
Comment arriver à des solutions nuancées? C'est ce que propose Fabrice Friese, l'emprise du faux, désinformation, le temps du combat. C'est le patron de l'AFP, il est avec nous dans Culture Média. Et voici les solutions qu'il propose dans un instant.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Fabrice Friese, le PDG de l'AFP, il signe aux éditions de l'Observatoire cet essai « L'emprise du faux ». Ça parle de désinformation, sous-titré « Le temps du combat », car combat il y a. On a fait le constat, on l'a tous fait ici et plusieurs fois, et vous avant nous. Maintenant, les réponses. Ce qui fait peur, c'est que vous voyez se profiler une info à deux vitesses. Et je vous cite « La fausse information est bien moins chère à fabriquer que l'information honnête ». Alors, il y a des sites payants, très bien informés, comme le New York Times, qui se vantent par exemple d'avoir pas moins de 1000 journalistes dans sa rédaction. Le journal est très rentable, c'est même un modèle économique qui force l'admiration de tout le monde grâce aux abonnements. Mais vous donnez ce chiffre, c'est page 54. Bon, on revient en France, mais c'est valable dans le monde entier, c'est peut-être même encore pire dans le monde entier. Seuls 15% des Français se disent prêts à payer pour de l'information. Et donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas envie de s'abonner à un journal, l'information gratuite, il y a quoi? Il tombe sur quoi?
Je pense que là, on est face au risque d'un schisme entre ceux qui pourront se payer une information de qualité et ceux qui continueront de s'informer à partir de sites gratuits. Et on voit se creuser un fossé entre ces deux modèles et le risque que l'information de qualité devienne finalement un produit de luxe. Il faut absolument lutter contre ça. L'information de qualité doit être un bien public. Il y a des solutions. Alors, en une minute, là, on va avoir du mal à toutes les définir.
J'en citerai
une.
Allez-y.
En ce moment, il y a un débat mercredi. Il y a une audience de l'autorité de la concurrence sur le sujet des droits voisins qui vise à faire en sorte très simplement que les médias se voient rémunérés pour les contenus qui sont indexés sur les plateformes. C'est un combat légitime et s'il est gagné, eh bien les médias et les agences auront davantage de ressources pour produire de l'information de qualité.
Voisins...
le type de débat du moment sur lequel il faut être très actif.
D'un mot, pour qui ne connaîtrait pas, j'explique ce que sont les droits voisins. C'est quand vous allez chercher une information sur Google et que vous tombez sur un article de Libération ou du Monde ou du journal L'Équipe. Ensuite, ça vous redirige vers Google, il y a de la publicité et c'est Google qui prend la publicité au lieu que ce soit Le Monde, Le Parisien ou L'Équipe. C'est ça les droits voisins. Si un site n'est pas financé par les abonnements, il est financé par la publicité. Vous dites aussi qu'il faut se tourner vers les annonceurs.
Je dis que une des solutions toutes bêtes pour commencer de lutter contre la désinformation, c'est d'assécher le business de la désinformation. Il faut savoir que la désinformation, c'est un business. Vous avez des gens assez connus en France, aux États-Unis, qui ont monté des business de plusieurs millions, parfois de plusieurs dizaines de millions. Pourquoi ? Parce que la publicité standard atterrit du fait des nouvelles pratiques de publicité programmatique sur ces sites de désinformation sans que les annonceurs le sachent. Et donc, il faut une chose toute bête, que les plateformes donnent aux annonceurs les outils qui leur permettent de savoir où leur publicité atterrit. Il est évident que si une marque de luxe apprend que sa publicité finit par atterrir sur un site extrémiste, elle va s'opposer à cela, ne pas recommencer, et à la fin, le site en question n'aura plus, tout simplement plus aucune ressource.
Oui, parce qu'il faut expliquer, une marque de luxe, ou toutes les marques d'ailleurs, dans la presse écrite ou la presse télé, on sait sur quel support on place la publicité, là on ne le sait pas. On le donne en gros pour faire schématiquement à des courtiers, et ces courtiers la redispatchent sur des milliers de sites,
voilà,
dont parfois on ignore l'existence.
Exactement. Avant, dans le système de media planning, vous achetiez une présence sur un support, donc vous saviez où allait votre pub. Maintenant, vous achetez une audience dont vous ne savez plus.
Vous demandez également, est-ce que les plateformes donnent la clé de leurs algorithmes, et notamment Facebook? Pour quelles raisons? Et ça changerait quoi?
Alors, les algorithmes sont évidemment au cœur du sujet. Ils structurent la manière dont on consomme l'information. Et on a accepté, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de débat, que ces algorithmes personnalisent, fragmentent à l'extrême l'information, les audiences. On a accepté...
Ça changerait quoi qu'on sache comment c'est construit?
Eh bien, déjà, on pourrait avoir un débat sur la manière dont ces algorithmes sont conçus, et on pourrait imposer aux plateformes des corrections. Les plateformes disent toujours la technologie est la solution. On voit bien ici que les algorithmes ont poussé vers le faux, donnent une prime à l'émotion, il faut corriger ça. On n'a pas de raison d'accepter de continuer ce degré de fragmentation et d'opacité.
L'idée peut-être la plus nouvelle que vous proposez, Fabrice Friis, c'est d'appliquer aux plateformes, donc Facebook notamment, le principe du pollueur-payeur. De quelle manière ? C'est-à-dire ?
La lutte contre la désinformation a un coût. Aujourd'hui, il y a un seul acteur véritablement engagé, qui est Facebook, qui a monté un programme avec 200 médias dans le monde et qui finance des actions de fact-checking. Mais vous avez des acteurs, je prends l'exemple de YouTube, qui est un haut lieu de la désinformation, qui ne fait rien. Monter ces opérations, encore une fois, c'est un coût. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est assez paradoxal...
Je vais faire court parce qu'il nous reste que quelques secondes. Obliger une marque comme YouTube à financer du fact-checking en regard de ce qu'il a publié comme fausses infos.
Du fact-checking ou d'autres opérations de formation des médias, etc. C'est l'idée que, très simple, que quand vous êtes une industrie polluante, vous financez, vous réparez les dommages que vous faites. Aujourd'hui, ce que je ne voudrais pas, je trouverais paradoxal que ce soit le contribuable qui finance finalement des programmes publics de formation aux médias ou de lutte contre la désinformation, quand ce sont les plateformes qui sont à l'origine. D'où le principe pollueur-payeur qui me paraît une idée de bon sens, extrêmement simple à mettre en œuvre.
Merci beaucoup Fabrice Friis. Pardon de n'avoir pas plus de temps, mais c'est la loi du genre. Je rappelle cet essai passionnant. Ça s'appelle L'emprise du faux. C'est publié aux éditions L'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes le PDG de l'AFP. Culture Média continue évidemment. Il y aura le rappel des titres de 10h. Puis on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain. J'y arrive, je veux tout dire en même temps, avec un documentaire sur la vie et l'œuvre de Voltaire. Et Bertrand Chamerois, son écran de veille, il a regardé Koh-Lanta en VO sous-titré. Notre invité, c'est la chanteuse Barbara Pravi, c'est elle qui va représenter la France à l'Eurovision le 22 mai prochain avec son titre « Voilà ». Elle va également nous parler de son mini-album qui sort maintenant. Et puis dans les indispensables, une sorcière pas comme les autres et un concerto qui pose question. Je ne savais pas que ça existait, les sorcières comme les autres. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.